Jacques-Pierre Goujon, bonjour.
Bonjour.
Dans quel état d'esprit la coalition au pouvoir à Berlin aborde-t-elle l'élection européenne alors que le SPD, le parti du chancelier Scholz, arrive en troisième position dans les sondages, derrière les conservateurs de la CDU et l'extrême droite de l'AFD, mais devant ses deux alliés au sein de la coalition, les Verts et les Libéraux?
Alors, je vois deux dimensions dans cette période préélectorale. Alors, d'une part, une véritable inquiétude par rapport au score du chancelier. Hein, vous l'avez évoqué, le parti social-démocrate est dans le meilleur des cas autour de 15-16%, hein, ce qui est tout de même un score faible. D'autant plus que l'opposition conservatrice, elle, est à 29-30%, donc le double. Alors, il faut savoir que dans la tradition de la CDU, il y a toujours eu une aile très européenne. Donc ça joue dans la campagne. Il faut se souvenir que c'est le parti qui a eu de grands Européens comme Helmut Kohl, Konrad Adenauer. Donc il y a tout de même cet héritage qui les aide. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une violence assez nouvelle tout de même en Allemagne. Violence physique.
Des hommes politiques agressés.
Alors là, c'est un peu la stupeur. Et on découvre, pas toujours, mais que ce sont en général des gens issus de l'extrême droite, hein, de l'AFD. Alors l'AFD dit que ce sont des gens qui ne sont pas encartés, c'est probable, mais qui sont en tout cas dans la sphère extrémiste de multiples organisations qui sont autour de ce parti. Et donc ça crée un véritable climat tout de même d'anxiété en Allemagne. Et je dirais qu'on peut même se dire, mais est-ce que ce pays qui s'est bâti sur la stabilité démocratique n'a pas maintenant une démocratie un peu plus fragile qu'avant?
Et cette fragilité, on va en parler, hein, s'ajoute à une fragilité économique. Mais si on reste sur l'Europe, diriez-vous que l'influence de l'Allemagne en Europe s'est affaiblie depuis l'arrivée au pouvoir d'Olaf Scholz? On se souvient, hein, d'une Angela Merkel qui était finalement la chef d'orchestre des sommets européens œuvrant à des compromis. On va dire qu'Olaf Scholz est peut-être plus taiseux, en tous les cas, pendant les sommets européens.
Il est peut-être plus taiseux, mais il n'en défend pas moins les intérêts allemands de manière parfois redoutable. On l'a vu concernant les énergies, hein, sur le nucléaire, où tout de même avec la France c'était très compliqué. On l'a vu sur les automobiles, hein, où l'Allemagne voulait garder le moteur thermique.
Oui, ça a été la stupéfaction quand même pour les partenaires quand il y a eu cette marche arrière au dernier moment à cause des libéraux. Et c'est bien une raison de la faiblesse actuelle de l'Allemagne, cette coalition à trois partis.
Alors ça, c'est vraiment, j'allais dire, l'angle faible actuel que l'on peut considérer en Allemagne. C'est-à-dire que pour la première fois au niveau fédéral, il y a un tripartisme. Bon. Donc sociaux-démocrates, verts et libéraux. Le problème, c'est que cela affaiblit le poids du chancelier, surtout que ce chancelier a fait, en 2021, lors de son élection, 25,7% pour être précis, hein, des voix, mais les autres partis ont tous fait plus de 10%. Donc ils se sentent très légitimes à parler quasiment d'égal à égal avec le chancelier. Alors que la Constitution prévoit qu'en cas de conflit ou de difficulté, le chancelier a le dernier mot. Bon, ce qui reste toujours le cas, parce que la Constitution est la Constitution. Mais c'est moins une évidence politique. Et cela se traduit avec d'autant plus de difficultés que parmi ces trois partis, il y en a un, les libéraux, qui, d'un point de vue politique, est assez éloigné des deux autres. On le voit sur la question de l'environnement, mais c'est aussi visible sur la question budgétaire. Le frein à l'endettement, par exemple.
Ils sont beaucoup plus dans l'orthodoxie.
Voilà. Et donc, ça freine beaucoup aussi les ardeurs des deux autres.
Et à Bruxelles, on peut le dire, il y a certains partenaires européens de l'Allemagne qui se disent maintenant que quand on cherche un compromis, il faut peut-être mieux le chercher dès le départ, sans Berlin, au cas où il y ait une surprise. Alors, le premier chapitre de votre livre, L'Allemagne, un enjeu pour l'Europe, s'intitule « La fin des tabous ». On va y venir, hein, parce que c'est vrai que pour ce pays, l'Allemagne, le déclenchement de la guerre en Ukraine a quand même imposé un tournant historique. Ce n'est pas exagéré de dire que l'Allemagne, troisième puissance économique au monde, a vu en fait les fondements de son modèle économique littéralement chanceler.
Oui, alors pour deux raisons. Il y a un tabou à la fois de nature politique et puis une fragilisation du modèle économique. Alors le tabou politique, c'est que l'Allemagne a dû prendre en considération avec la guerre en Ukraine l'aspect militaire de la politique extérieure. Ce qui était jusqu'ici mis sous le tapis parce qu'on n'en parlait pas, on laissait plutôt les autres faire. Donc l'Allemagne, évidemment, du fait de son passé, voulait se présenter davantage comme une
Elle
puissance...
Elle avait un peu le statut de figurant.
Voilà, puissance de la paix. Voilà, c'était leur concept, Friedensmacht, pour ceux qui entendent l'allemand. Et là, maintenant, ce n'est plus possible. Parce que, vous l'avez rappelé, troisième puissance économique mondiale, première européenne. Et donc, il y a une attente à l'égard de l'Allemagne maintenant en termes militaires. D'où la décision du chancelier, dans son fameux discours du 27 février 2022, de créer un fonds spécial pour l'armée fédérale à hauteur de 100 milliards d'euros, ce qui est tout de même considérable. Et si on étale, ce qui est le cas, évidemment, sur plusieurs années, l'abondance de ce fonds, le budget militaire de l'Allemagne pourra dépasser celui de la France. Donc l'Allemagne se retrouve aussi en statut de puissance militaire, ce qu'elle n'avait jamais vraiment envisagé.
Depuis 1945.
Absolument. Le deuxième point que vous avez donc esquissé, c'est la fragilisation du modèle économique. Parce que la guerre en Ukraine, c'est la mise en avant d'une dépendance, notamment à l'égard de la Russie en matière énergétique. Gaz russe. Créé sur plusieurs années. Donc le chancelier en a hérité. Et donc, ils ont fait un énorme effort pour réduire fortement cette dépendance à l'égard du gaz russe à travers ce qu'on a appelé d'ailleurs en Allemagne la diplomatie énergétique. C'est-à-dire le chancelier, son ministre de l'économie ont fait le tour des grandes capitales capables de les fournir. Donc là, on a eu un vrai changement et est apparu également, ça venait un petit peu avant, c'était lié à la crise au Covid, mais ça s'est renforcé au moment de la guerre en Ukraine, la dépendance à l'égard de la Chine.
Alors exactement, on a l'impression qu'on met un terme à la dépendance vis-à-vis de la Russie, mais on crée potentiellement, c'est ce qui se dit, une nouvelle dépendance, et cette fois-ci face à la Chine.
Absolument. Et c'est très intéressant parce que c'est le patronat allemand, très précisément la Confédération de l'industrie allemande, qui, la première, a publié un papier où elle a présenté la Chine, certes comme un partenaire, mais aussi comme un rival auquel on était assez mal préparé, en disant qu'on était loin de l'état de droit, que l'économie de marché n'était pas non plus vraiment respectée. Et donc, dès 2019-2020, il y a eu une interrogation sur le poids de la Chine à l'égard de l'Allemagne. Il faut savoir peut-être un seul chiffre, qu'un groupe comme Volkswagen, bien connu de tous, 37% de son chiffre d'affaires
est réalisé
en Chine. Donc on se rend bien compte que cette dépendance, elle est réelle.
Et c'est pour ça qu'on voit aussi l'Allemagne percuter un peu comme les États-Unis sur le dossier du véhicule électrique.
Absolument.
Quid de la défense européenne à présent ? Scholz est-il plus atlantiste que Merkel ? Merkel, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais avait sans doute la priorité de peser en Europe. Pour Olaf Scholz, vous diriez que la relation avec Joe Biden, c'est celle qui prime ?
Je dirais que oui. Alors, ce n'est pas le seul élément. C'est-à-dire que Scholz voit aussi l'Allemagne davantage au cœur de l'Europe. C'est-à-dire qu'il regarde aussi vers l'Est. C'est-à-dire que la relation avec la France est certes importante, mais c'est un grand partenaire parmi d'autres. Il est très attaché, par exemple, à la relation avec la Pologne. Très attaché avec ce qu'on appelle le bloc de l'Europe centrale. Et d'ailleurs, dans son grand discours européen de août 2022, il évoque cette nouvelle centralité de l'Allemagne en disant « Mais ayons le courage de voir que l'Union européenne glisse vers l'Est, notamment avec les élargissements encore à venir ». Puisqu'on va parler de l'Ukraine, il y a les Balkans aussi. Donc, il regarde d'un point de vue géopolitique les choses différemment que Madame Merkel. Parce que Madame Merkel, elle avait cette conscience, évidemment, de la recentralisation, si on peut dire, au cœur de l'Europe, de l'Allemagne, mais elle visait à ne pas avoir de conflit majeur avec la France.
Quand on sait que les relations entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz ne sont pas nécessairement aisées, ce regard désormais allemand qui se tourne vers l'Est, quelles sont les incidences de cette nouvelle géopolitique, on va dire, sur justement le couple ou le moteur franco-allemand ?
Alors, je crois que l'on assiste, et le terme n'est pas excessif, à une banalisation la relation franco-allemande. Alors que du côté français, on est beaucoup resté dans l'émotionnel. On considère encore la relation franco-allemande comme stratégique, fondamentale. Donc ça, c'est le premier point. Et alors, vous l'aviez esquissé, donc je me permets d'y revenir pour y répondre pleinement, c'est la relation avec Washington aussi. Pour le chancelier, elle est primordiale. Je dirais qu'elle vient même en numéro un. Et on l'a vu sur plusieurs dossiers.
Notamment sur l'Ukraine.
Lorsqu'il s'est agi de fournir des armes lourdes, il a attendu que les Américains fournissent eux-mêmes des chars lourds. Et sur la protection antimissile, il n'a pas hésité à choisir un partenariat américain et israélien, et allemand bien sûr. Et la stupéfaction de la France, et l'argument était de dire « oui, mais bon, moi je voudrais que ce soit rapide, etc. » Mais oui, donc il n'a pas hésité à aller frontalement, pourrait-on dire, contre les intérêts français.
Je voudrais vous poser une dernière question. Quand on voit effectivement que l'Allemagne connaît des difficultés économiques, vis-à-vis de l'Ukraine, est-ce que les Allemands, un jour, pourraient être tentés de dire à Volodymyr Zelensky de faire des concessions à Vladimir Poutine en raison justement des difficultés économiques rencontrées en Allemagne ?
Alors, ça, ce n'est absolument pas à exclure. Alors, évidemment, ce ne sera jamais public parce que tout ça se passe dans les coulisses. Mais il faut rappeler pour les auditeurs que l'Allemagne est, derrière les États-Unis, le deuxième pays à fournir le plus d'aide. Si on prend l'aide totale militaire plus humanitaire, on est à 32 milliards. Si on prend seulement l'aide militaire, nous sommes pour l'Allemagne à 17 milliards. Alors que la France, avec le rapport du Sénat qui est plutôt favorable, on serait à 3,4 milliards. Donc on voit déjà la différence. Donc vu la situation économique tout de même un petit peu délicate, fragilisée, il y a évidemment dans une partie de la diplomatie allemande la volonté de dire quand cela va-t-il s'arrêter ? Parce que cela commence à augmenter la facture. Alors, ça fait partie du non-dit, évidemment, parce que personne n'osera le dire en public. Mais cela fait partie des discussions en coulisses, bien évidemment.
Jacques-Pierre Goujon, merci beaucoup.
Merci à vous.